Un journal présenté ce soir par Isabelle Souquet. Bonsoir Isabelle Souquet.
Bonsoir. Le gouvernement Castex se fait attendre, mais on devrait en connaître la teneur avant 20h. Invité de ce journal pour en parler, le politologue Bruno Cotrès. Alors que la pandémie flambe à nouveau dans plusieurs pays, Israël décide de mesures drastiques, reconfinement de tous les lieux de convivialité du pays. Facebook et WhatsApp refusent de céder à la pression du gouvernement chinois qui voudrait des informations sur un certain nombre d'utilisateurs à Hong Kong. Il voulait qu'on l'appelle le maestro, détesté que l'on dise Western Spaghetti. L'Italie pleure un de ses enfants chéris. Reportage à Rome dans un instant. On devrait connaître donc dans moins de 2 heures le gouvernement Castex, un premier ministre qui lui a déjà pris ses premières marques et qui s'est montré très actif depuis vendredi, jour de sa nomination, Anne Fauconberg.
Oui, Jean Castex a rencontré cet après-midi les présidents des trois chambres. Il sera ce soir avec les parlementaires de la majorité, mais dès samedi, il était sur le terrain en Essonne, puis hier soir dans un commissariat de la Seine-Saint-Denis. Le ministère de l'Intérieur qui est regardé de près dans ce remaniement. Christophe Castaner est sûr de sortir, il a perdu la confiance des policiers. Il cristallise le mécontentement de citoyens depuis les manifestations des Gilets jaunes. Son remplacement n'est toutefois pas simple pour l'exécutif qui hésiterait entre Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, et Jean-Michel Blanquer à l'Éducation nationale, sauf si ce dernier passe à la tête d'un super ministère qui réunirait éducation et culture. La rue de Valois a en effet besoin d'une personnalité qui pèse pour s'imposer face aux arbitrages budgétaires de Bercy. Après la crise du Covid-19, les pertes se chiffrent à plus de 22 milliards 300 millions d'euros dans ce secteur. Crise au cours de laquelle l'actuel ministre Franck Riester a manqué de réactivité. Et pour le remplacer, on parle aussi ce soir de l'ancienne ministre de la Santé Roselyne Bachelot, amatrice d'opéra, ou encore de la journaliste Claire Chazal. La crise du Covid-19 qui place aussi le ministère de la Santé sous le feu des projecteurs. Olivier Véran devrait rester à son poste, tout comme Bruno Le Maire à l'économie. Deux ministères avec lesquels Jean Castex souhaite s'impliquer à court terme pour boucler le Ségur de la Santé d'un côté et le plan de relance prévu pour cet été. Enfin, après les municipales, c'est la grande question. Qui pour l'écologie? Parmi les noms récurrents, la députée En Marche Barbara Pompili. Elle était déjà en charge de la biodiversité pendant le quinquennat Hollande.
Dossier très important aussi au chapitre économique aujourd'hui. On va s'arrêter un instant dans cette matière, Marie Viennot. Les chantiers urgents ne manquent pas, en commençant par le Ségur de la Santé.
Oui, c'est le premier dossier qu'aura géré Jean Castex, l'hôpital, la revalorisation des métiers du soin. Le Premier ministre a dit ce week-end qu'il prendrait lui-même la parole cette fin de semaine sur le Ségur de la Santé. Difficile d'être plus attendu au tournant, lui qui fut directeur de l'hospitalisation de 2005 à 2007 et participa notamment au passage à la tarification à l'activité, réforme dont tout le monde, y compris le président de la République, dit qu'elle a contribué à déstabiliser l'hôpital. À la nomination du gouvernement, les discussions au Parlement sur le troisième budget rectificatif reprendront. Alors ce n'est pas Jean Castex qui mènera les débats, mais les personnes qu'il aura nommées à Bercy. Cependant, il peut avoir à trancher, notamment sur l'emploi des jeunes, le texte initial étant jugé trop timide. Troisième chantier, la finalisation du plan de relance qu'on nous promet pour l'automne. Là aussi, c'est Bercy qui pilote, mais en très étroite collaboration avec l'Élysée, qui compte beaucoup sur ce plan de relance comme moteur politique pour la rentrée. Quant à la réforme des retraites, Jean Castex a déjà annoncé que c'était l'une de ses priorités. Pour rappel, l'Assemblée nationale a déjà adopté le projet de loi organique instituant un système universel de retraite le 5 mars, mais les discussions avec les syndicats sur l'âge pivot sont restées pendantes. Or, aucun d'eux, MEDEF et CFDT compris, ne veulent dans l'immédiat les reprendre. Le gouvernement fera-t-il fi de ce refus? Décidera-t-il seul, comme le gouvernement Philippe l'avait fait pour la réforme de l'assurance chômage? Ce sera clairement un test de l'appétence du prochain gouvernement pour le dialogue social et son désir de réconciliation ou pas avec les corps intermédiaires.
Marie Viennot, avec nous aussi Rosalie Lafarge du service politique de France Culture et Bruno Cotrès, politologue chercheur au CEVIPOF, centre de recherche politique de Sciences Po. Bonsoir.
Bonsoir.
Bruno Cotrès, Jean Castex a rendu visite au président des trois chambres cet après-midi. Est-ce qu'il faut y voir un changement de méthode, plus de place peut-être pour les parlementaires, pour les corps intermédiaires, pour les territoires?
Oui, en tout cas, c'est le message que Jean Castex veut faire passer depuis sa nomination. Il s'est rendu sur le terrain, il veut montrer qu'il a à la fois un homme de dialogue, un homme qui va dialoguer avec les corps intermédiaires, et donc progressivement il veut faire passer un message nouveau par rapport à un reproche qui avait été fait depuis le début du quinquennat, qui était pas assez de considération pour les corps intermédiaires, pour les élus, notamment les élus locaux. Donc on voit que là, il y a une intense communication de l'exécutif pour essayer de faire passer ce message.
Il y a aussi d'intenses tractations. On a le sentiment que ça traîne un petit peu l'annonce de la nouvelle équipe gouvernementale. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a des dossiers qu'on a du mal à régler? La place Beauvau, peut-être?
Oui, apparemment, il y a un certain nombre de portefeuilles ministériels qui sont plus compliqués que d'autres. Composer un gouvernement, c'est un équilibre assez subtil à la fois entre des personnalités qui doivent incarner. Jean Castex a indiqué qu'il voulait des personnalités immédiatement opérationnelles, mais il lui faut aussi trouver un casting qui va impacter tout de suite dans l'opinion publique, des figures qui vont tout de suite avoir une grande capacité d'incarner, hein, je pense en particulier au dossier de l'environnement et du climat, sur lequel il faut une personnalité qui va vraiment rayonner. Emmanuel Macron a dit que c'était une priorité pour lui. Donc voilà, composer un gouvernement, c'est tout ça, mais il y a aussi bien sûr les équilibres politiques, et peut-être que les différents partenaires de la majorité ont eu l'occasion de faire remonter leurs demandes.
Alors vous l'évoquiez, mais est-ce qu'il faut encore vraiment des symboles, des personnalités connues, ce qu'on appelle un peu des gros coups? Est-ce que c'est encore ça qui séduit, qui peut convaincre les Français, ou est-ce que ces temps-là sont derrière nous? Est-ce qu'on n'a pas envie plutôt de compétences?
Oui, bien sûr, la dimension de compétence est absolument essentielle, que des personnalités connaissent bien leur dossier, est toujours appréciée bien sûr des Français, mais là en l'occurrence, le chef de l'État a mis la barre assez haut en disant qu'il fallait un gouvernement qui inspire une nouvelle ligne. Il a parlé d'un nouveau chemin, donc forcément cette nouvelle ligne, ce nouveau chemin, ça doit en passer par des personnalités qui incarnent et qui ont une capacité à être connues, repérées des Français. Il faut rappeler que dans le gouvernement qui vient de se terminer, il y avait plusieurs ministres dont les enquêtes d'opinion montraient qu'ils étaient assez peu connus et qu'ils incarnaient assez peu leur domaine de l'action publique. Donc c'est quand même une dimension qui est importante. Il ne faut pas oublier non plus que le temps va être terriblement compté à ce nouveau gouvernement. L'élection présidentielle, c'est dans moins de 2 ans. Et au fond, si on retire le temps de la campagne présidentielle, ce nouveau gouvernement va avoir, disons, 12 à 15 mois, peut-être 16 mois devant lui. C'est très très court.
Est-ce qu'il y a des messages clairs à envoyer avec cette nouvelle équipe, peut-être par les personnalités qui seront retenues? Je pense à cette envie d'écologie chez pas mal de Français qu'on a vu notamment au municipal. Je pense aussi à cet électorat de centre-droit séduit par Emmanuel Macron en 2017. Est-ce que le président, avec son casting, doit penser à long terme?
C'est certain que dans le casting d'un gouvernement, il y a plusieurs messages. Évidemment, l'un des messages importants, c'est la trajectoire politique de ce gouvernement. Qu'est-ce qu'il incarne exactement? Quel est le message qu'Emmanuel Macron veut envoyer d'abord et avant tout à son socle électoral? Il s'agit sans doute pour lui d'abord de conserver un électorat de centre-droit qui a d'abord été un peu un électorat de circonstance qui est venu vers lui. C'est cet électorat qui s'est senti en déshérence après le grand crash de 2017 et aussi les élections européennes catastrophiques pour LR de 2019. Donc il s'agit pour lui de conserver cet électorat et peut-être essayer de miser sur tout ce qui a été mis en œuvre pendant la crise de la Covid-19, le soutien aux entreprises, le soutien aux travailleurs, le chômage partiel, pour essayer d'atténuer les critiques de l'électorat de centre-gauche vis-à-vis du bilan d'Emmanuel Macron.
Merci Bruno Contres, je rappelle que vous êtes politologue et chercheur au CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po. La pandémie de Covid-19 reprend dans plusieurs pays avec son corollaire des mesures d'isolement, comme en Galice pour 70 000 personnes, ou en Australie qui a décidé d'isoler tout un état, l'état de Victoria, désormais coupé du reste du pays après une flambée de cas à Melbourne. En Israël, c'est un reconfinement qui a été prononcé. Tous les lieux festifs doivent fermer, mesure décidée aujourd'hui et effective le jour même. Alice Froussard.
Les bars, les salles de concert ou de spectacle, les boîtes de nuit, piscines, gymnases, musées, tout doit fermer à nouveau pour freiner la propagation du coronavirus. La capacité d'accueil dans les restaurants est désormais limitée à 20 personnes maximum à l'intérieur, 30 à l'extérieur, décision cet après-midi du gouvernement israélien. Le ministère israélien de la Santé prévoit également de limiter le nombre de personnes dans les lieux de culte, pas de prière à plus de 19 et dans les transports publics, 20 passagers maximum, sans air conditionné, fenêtres ouvertes obligatoires. Les plages ne seront pas interdites mais limitées à certaines heures et la réouverture des frontières aux touristes d'ici août n'est plus du tout d'actualité. Stricte mais nécessaire pour empêcher des mesures plus extrêmes, précise Benjamin Netanyahou à la fin de la réunion de la commission spéciale du Parlement consacrée à la lutte contre le Covid-19. Le Premier ministre israélien précise aussi que le pays n'est qu'à un pas d'un reconfinement total, car au moment où les infections grimpent en flèche avec près de 1000 contaminations quotidiennes et où les frontières sont encore fermées, il est compliqué d'inverser la tendance.
Et aux États-Unis, où l'on enregistre un nombre record de contaminations, plus de 40 000 en 24 heures le week-end dernier, des mesures de reconfinement sont aussi envisagées en Arizona. C'est ce que souhaite en tout cas le maire de Phoenix, la capitale de l'État, alors que Donald Trump continue d'affirmer que la crise est sur le point de s'achever. La situation toujours très difficile à Hong Kong avec cette récente loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, votée la semaine dernière par le Parlement chinois. Une nouvelle législation qui ouvre la voie à des changements radicaux et pourrait déboucher sur un virage autoritaire. Inquiétude des chancelleries occidentales et notamment à Washington. La semaine dernière, le Sénat américain adoptait à l'unanimité un texte pour soutenir les droits de l'homme et la démocratie. Et on apprend ce soir que Facebook et sa filiale WhatsApp refusent de livrer aux autorités hongkongaises des informations sur leurs utilisateurs. À Washington, Grégory Phillips.
Dans deux communiqués, Facebook et le service de messagerie WhatsApp indiquent que désormais, ils refuseront de livrer aux autorités de Hong Kong des informations sur leurs utilisateurs et ce, en attendant une nouvelle évaluation de cette loi sur la sécurité nationale imposée aux territoires autonomes par le régime chinois. Dans l'ex-colonie britannique, l'accès à Internet est illimité. Un porte-parole de Facebook explique que la liberté d'expression est un droit fondamental et que les utilisateurs du réseau social doivent pouvoir s'exprimer sans craindre pour leur sécurité. Chez WhatsApp, on rappelle que ce système de messagerie cryptée protège la confidentialité des échanges de 2 milliards de personnes et que les habitants de Hong Kong aussi ont droit à ce service. Les deux compagnies sont parfois saisies par des gouvernements à la recherche d'informations relatives aux usagers de ces réseaux. Chaque requête est examinée en fonction de la politique interne des deux géants d'Internet, mais aussi des lois locales et des normes internationales en matière de droits humains fondamentaux. Toutes les demandes déposées par Hong Kong sont donc gelées. Aux États-Unis, la pression de ces entreprises du net s'ajoute à celle du pouvoir politique. Restrictions de visa, projets de sanctions contre le pouvoir de Pékin et menaces de Donald Trump qui, il y a quelques jours encore, promettait de punir les responsables du Parti communiste chinois.
En France, dernière journée du procès fleuve du Mediator, commencé en septembre dernier, plaidoirie en défense. Aujourd'hui, les avocats demandent la relaxe pour les laboratoires Servier, jugés aux côtés de l'agence du médicament. Le parquet de Paris a requis des amendes et des peines de prison avec sursis pour plusieurs cadres et experts des autorités de santé. Le jugement ne sera pas connu avant mars 2021. 5 personnes interpellées, placées aujourd'hui en garde à vue après l'agression d'un chauffeur de bus à Bayonne hier, frappé par des jeunes auxquels il reprochait de monter à bord sans masque ni ticket. Transporté à l'hôpital de la ville, il est en état de mort cérébrale. Il n'était lui ni le bon, ni la brute, ni le truand, il était le maître. Et pas seulement le maître de la musique de western, mais celui de toutes les musiques de films. Ennio Morricone, décédé aujourd'hui à 91 ans, après une mauvaise chute, pleuré par d'innombrables fans, simples spectateurs ou musiciens ou même, et pas des moindres, comme le chef d'orchestre Riccardo Muti. Il salue un homme et un artiste pour lequel il nourrissait amitié et admiration aussi pour ses musiques classiques. Leur patrie à tous deux, l'Italie, le pleure aujourd'hui. Antonio Gallofaro.
Critique cinéma pour la télévision publique italienne, Federico Pontigio est resté surpris et choqué par la nouvelle.
Il était le synonyme même du mot musique, sinon le superlatif absolu. Quand je l'ai appris, je n'exagère pas, quelque chose de ma vie s'est affaibli. Aujourd'hui, notre monde est un peu plus petit.
Les cinéphiles italiens ne cessent de partager depuis ce matin les films et les compositions du maestro. Patricia Maiorga partage un souvenir. Elle avait rencontré Ennio Morricone il y a plus de 10 ans.
C'était un gentleman dans tous les sens du terme, même si un tout petit peu impatient, mais très cordial, très éduqué.
Le compositeur avait même partagé avec elle une confidence, le regret de ne pas avoir été un père meilleur.
Il m'avait dit, quand je composais, mes enfants ne pouvaient même pas faire un bruit, le silence devait être sépulcral. Pour cela, il avait remercié sa femme, très attentive à son travail.
Dans les dernières paroles écrites du maestro, en effet, son adieu le plus douloureux est pour son épouse.
Voilà, on laissait quand même un tout petit peu de cette superbe musique. Un mot pour vous dire cette dépêche qui arrive à l'instant. La composition du gouvernement sera annoncée finalement à 19h à l'Élysée. Et puis un mot de météo pour finir ce journal avec le retour du soleil demain sur l'ensemble du territoire. Des passages nuageux le matin au nord de la Loire, puis place à un grand soleil au nord comme au sud. Du vent en Méditerranée, Mistral et Tramontane. Au choix, une petite couverture nuageuse par endroit sur les Pyrénées. Les températures de 4 à 17 degrés de minimale et de 19 degrés dans le nord jusqu'à 30 voire 34 degrés localement en Corse.